catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur.
Salut, fidèles auditeurs de Radio Maria, c'est l'heure de la catéchèse nationale. Nous sommes donc très heureux de pouvoir passer ces bels instants ensemble avec vous, de partout d'où vous avez choisi de suivre la Radio Maria. Nous allons ce jour, en compagnie de M. l'abbé Philibert Mayengele, être édifié autour du thème « La maladie qui ronge l'Église », un thème inspiré du livre « Le soir s'approche et le jour baisse » du cardinal Robert Sarah. Monsieur l'abbé va davantage nous éclairer là-dessus. Bonjour Monsieur l'abbé.
Bonjour Daniel, bonjour à tous nos auditeurs, et que la paix du Seigneur soit avec vous, et d'avance... Merci de tout cœur à l'équipe technique Virgin Sakala et ingénieur Jose qui nous accompagne. Que Dieu nous éclaire.
Merci, monsieur l'abbé. Les thèmes, nous l'avons dit, à première vue, il fait poser des questions. Vous parlez de la maladie qui ronge l'Église.
Oui, Daniel, aujourd'hui, à travers cette catéchèse, je voudrais nous inviter tous à prendre un temps. Un moment de vérité, une pause dans les tumultes du monde pour regarder avec amour la santé de notre chère Église. Comme le rappelle le cardinal Robert Sarah, une maladie silencieuse ronge notre Église, celle qui consiste à vivre comme si Dieu n'existait pas. Il existe effectivement une maladie, peut-être que nous ignorons, peut-être que nous ne voyons pas. Mais il s'agit d'une grave maladie spirituelle qui ronge l'Église corps du Christ. Alors, asseyez-vous, chers auditeurs, chers internautes, dans le silence du cœur et laissons la parole de Dieu éclairer ces diagnostics. Ensemble, donc, demandons au Seigneur de nous guérir, de ranimer en nous la foi vivante et le feu de l'amour.
Merci, monsieur l'abbé, et cela en compagnie de l'Esprit Saint que nous allons invoquer avant de prier. Pour la prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi le médecin des âmes, regarde ton Église avec miséricorde. Pardonne-nous lorsque nous agissons sans toi, lorsque nous prions du bout des lèvres, lorsque nous oublions ton regard d'amour. À travers cette catéchèse, envoie ton Esprit Saint pour renouveler nos cœurs, pour que nous redevenions lumière du monde et celle de la terre. Que cette catéchèse d'aujourd'hui nous aide à prendre conscience de la maladie, cette maladie qui ronge notre Église, l'esprit de la mondanité qui pénètre de plus en plus l'Église, les cœurs, la vie des fidèles, et ravive en nous les dons de la foi. Sois avec nous, Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, et guide-nous, Seigneur, tout au long de cette catéchèse et tout au long de cette journée, dont récit de toi qui est notre Dieu, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Amen, fidèles auditeurs. Cette catéchèse est en train de commencer. Je rappelle que le thème choisi ces jours est très intéressant. La maladie qui ronge l'Église. Un thème inspiré du livre Le soir s'approche et le jour baisse du cardinal Robert Sarah. Suivez attentivement et veuillez intervenir en posant vos questions si nécessaire par les 089 10 32 954. 089 10 32 954. Monsieur l'abbé.
Merci Daniel, merci à tous nos auditeurs, à nos internautes pour avoir choisi Radio Maria, cette radio de notre Mère du Ciel. Nous nous inspirons aujourd'hui du livre du cardinal Robert Sarah. Ce livre intitulé « Les soirs s'approchent et déjà les jours baissent » publié aux éditions du Fayard en 2019. Eh bien déjà, le titre est tiré de l'épisode du disciple d'Emmaüs dans Luc 24, verset 29. « Reste avec nous, Seigneur, car les soirs approchent et déjà les jours baissent. » C'est résumé, chers fidèles auditeurs, vénérés internautes, résume les cris de l'Église et du monde d'aujourd'hui. Nous devons le savoir tous que nous traversons une nuit spirituelle, une crise profonde de la foi. Mais n'oublions pas que le Christ marche avec nous. Et dans l'Église, beaucoup perdent l'essence du sacré, du silence et de la perte. Mais n'oublions pas que Dieu est avec nous. L'homme moderne veut tout maîtriser par la technique, la science et les pouvoirs. Mais il a perdu son âme. Voilà pourquoi le cardinal Robert parle d'une apostasie silencieuse. Des chrétiens pratiquent encore extérieurement, mais sans vraie foi, sans fait intérieur. Ce qui fait que l'Église aujourd'hui est en crise. Robert Sarah ne condamne pas, mais appelle à une conversion radicale du cœur de l'Église. Il dénonce donc plusieurs dérives. Et n'oublions pas que dimanche dernier, nous avons célébré la fête, la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran. On nous a rappelé l'essence de l'Église. On nous a rappelé ce que doit être notre attitude lorsque nous sommes à l'Église. On nous a aidé à comprendre ce que l'Église sur le plan de notre doctrine chrétienne. Alors, regardons la vérité en face. Quelles maladies spirituelles affaiblissent notre Église aujourd'hui? Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour juger, mais pour prendre conscience et se convertir. Alors, nous allons rapidement citer les mots les plus visibles. Nous les savons, la course au matérialisme et la recherche effrénée de l'argent qui transforme la foi en commerce. Il y a la complicité de certains hommes de Dieu, prêtres, évêques, avec les pouvoirs en place, oubliant les rôles prophétiques. Il y a le manque de vue des prières et des connaissances de la doctrine, laissant nos communautés sans lumière. Il y a le relativisme et la prière dite par habitude, sans conviction ni cœur, qui rend l'Église tiède. Et ici, Saint Paul nous rappelle, ils ont gardé les apparences de la piété, mais en ont renié la force. C'est ce que nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Chers auditeurs, chers internautes, ce constat est un appel à revenir au Christ vivant. Cet appel nous met au centre de ce qui doit être nos soucis. Nous sommes au centre de nos vies, au centre de nos communautés. Voilà pourquoi Sarah dit, bientôt les chrétiens eux-mêmes vivront comme si Dieu n'existait pas. C'est le premier constat malheureux, vivre comme si Dieu n'existait pas. Cette phrase, fidèles auditeurs, chers internautes, n'est pas une exagération. Combien de fois voyons-nous autour de nous, et parfois en nous, cette fatigue spirituelle. On prie sans écouter, on participe sans adorer, on agit sans aimer. Il suffit de voir l'attitude des chrétiens quand on est à l'église, des va-et-vient. On parle, on cause. C'est ce que le pape Benoît XVI appelait la dictature du relativisme. Tout c'est vous, tout s'explique, tout se justifie. Mais Dieu disparaît du concret de nos vies. Voilà pourquoi saint Paul parle des apparences. Nous donnons l'impression d'être à l'église, d'être en prière, mais en réalité, on n'est pas là-dedans. Ils ont gardé les apparences de la piété, mais ils ont renié la force. Nous faisons beaucoup pour Dieu, mais nous oublions parfois de faire avec Dieu. Nous faisons beaucoup pour Dieu, mais nous oublions de faire avec lui. On peut prendre quelques exemples. Combien de réunions paroissiales commencent sans une prière véritable? Combien de rencontres de fidèles qui, après avoir médité la parole de Dieu, ils se mettent à critiquer les autres? Ils parlent mal des autres. Il y en a même qui ont d'autres programmes après la prière qui ne cadrent pas avec la bonne nouvelle. Chers auditeurs, chers internautes, combien de célébrations deviennent des événements sociaux plutôt que des rencontres du ciel et de la terre? Voilà où commence la maladie. La maladie commence là où, quand Dieu n'est plus le centre, mais un simple décor. La maladie commence par là. Nous faisons un simple décor. On a l'impression que c'est des chrétiens qui se retrouvent, qui prient, mais en réalité, ils sont loin de Dieu. Nous les remarquons aussi, nous passer de la lumière de la foi. Nous décidons, dit le cardinal Sarah, de nous passer de la lumière de la foi. Sans la foi, nous le savons, chers auditeurs, chers internautes, la foi, la vie chrétienne, devient une simple activité humaine. La théologie devient de la théorie. La Bible devient une simple littérature. Et la liturgie devient un spectacle. Le psaume 36 nous rappelle, en ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, verset 10. La foi, c'est ce regard intérieur qui nous permet de reconnaître Dieu à l'œuvre, même dans les petites choses. Chers auditeurs, chers internautes, sans cette lumière, tout devient flou, tout devient gris. Prenons exemple. Une lampe de poche sans pile, elle garde sa forme, son interrupteur est bel et bien là, sa belle coque, mais elle ne brille pas. Elle ne brille pas. Voilà. C'est ainsi que l'Église est sans lumière de la foi. Elle devient comme une structure, une institution sans flamme. Nous constatons aussi la liturgie, qui est le lieu du mystère, non un spectacle. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous organisons la liturgie comme un spectacle et non comme le renouvellement mystique du sacrifice de la croix, souligne le cardinal Robert Sarah. Chers auditeurs, chers internautes, la messe n'est pas une scène où l'on brille, mais un autel où l'on s'offre. Le Christ ne nous invite pas à assister à la messe, mais à participer à son sacrifice. On n'assiste pas à la messe, on participe. Saint Paul le dit clairement, chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. Mais quand la liturgie devient un slow, un show, les projecteurs se tournent vers l'homme. Mais quand, et les prières, les cœurs s'élèvent vers Dieu, dans les silences, dans la beauté, dans l'adoration, le Seigneur se rend présent. Le monde a besoin de témoins, pas de spectacles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Les gens qui viennent à l'église pour se faire voir. Les gens qui viennent à l'église, ils veulent être bien habillés pour que tout le monde les apprécie. Les dames qui voient ce qu'on appelle couture, modèle ouana, modèle ina, y a que yambote. Non, on ne va pas à la messe pour ça. Il y en a qui, pendant la messe, en pleine messe, ils prennent des coups de fil. Ils reçoivent un appel. Ils sortent dehors pendant la messe, pendant l'homélie, parfois même pendant la consécration. Il va répondre à un appel. Voilà pourquoi le pape François nous disait que la messe, ce n'est pas un spectacle. Non, ce n'est pas un spectacle. Qu'est-ce que nous constatons encore? Les consacrés, les fidèles, sont des signes du royaume. Les prêtres et les religieux vivent malheureusement dans une pure mondanité, souligne Robert Sarah. Cette phrase n'accuse pas, mais elle appelle à la conversion. Elle ne concerne pas que les prêtres. Nous tous, baptisés, nous sommes appelés à être consacrés à Dieu. Jésus nous le rappelle. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Exemple concret. Quand un chrétien médise, il vit dans la peur, il triche, mais il perd sa saveur. Mais quand il pardonne, quand il reste fidèle, quand il prie malgré tout, eh bien, il devient lumière pour les autres. Donc, le monde, chers auditeurs, chers internautes, n'a pas besoin d'une église populaire, mais il a besoin d'une église prophétique. Une église qui ose aller à contre-courant. Une église qui rappelle la sainteté, la beauté de la chasteté, la grandeur de la prière et la force du silence. Mais quand nous chrétiens, nous commençons à faire comme tout le monde. Quand nous chrétiens, nous nous habillons légèrement, surtout les femmes. Quand les jeunes gens qui viennent à la messe, ils mettent des tailles basses là. Mais qu'est-ce que nous devenons? Quand même les prêtres sont dans ces pratiques-là, tout à fait bizarres, à la recherche de l'argent, à la recherche des intérêts. Ils ne visent que cela. La pastorale est conditionnée par l'argent. Non, c'est la mondanité. Nous sommes appelés à être sel de la terre et lumière du monde.
Voilà, merci beaucoup, fidèles auditeurs. Nous allons poursuivre cette catéchèse nationale et la partie interactive arrive d'ici quelques instants. Et veillez vous préparer à réagir par le 089 10 32 954. Monsieur l'abbé.
Merci Daniel, merci à tous nos auditeurs. Je disais tantôt une église qui ose aller à contre-courant, qui rappelle la sainteté, la beauté de la chasteté, la grandeur de la prière. Il faut cette église-là, parce que le monde n'a pas besoin d'une église populaire, il a besoin d'une église prophétique. Nous constatons encore la course au matérialisme et la recherche effrénée d'argent. L'église s'affaiblit. Elle s'affaiblit, dit le cardinal Sarah, lorsque l'argent devient plus important que la prière et la chasteté. Dans Matthieu 6, verset 24, le Christ dit « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Malheureusement, on trouve des fidèles, pour ne pas parler des prêtres, qui jugent la valeur d'un service religieux selon la somme donnée, plutôt que par amour du Christ. Il y a des paroisses où les collectes ou campagnes de financement remplacent la prière et l'adoration. À une messe, on va jusqu'à 3-4 tours de collecte. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous imitons exactement ce que font nos frères des églises de réveil. Voilà pourquoi Jean Chrysostome nous dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, même dans l'église. » Et donc, apprenons à mettre toujours la prière et les services des pauvres avant toute recherche matérielle, avant toute recherche d'argent. Il y a aussi la complicité avec les pouvoirs et la perte des prophéties. Certains hommes de Dieu oublient leur mission. Prêtres, évêques, ils oublient leur mission et s'associent au pouvoir, perdant leur indépendance spirituelle, dit le cardinal Sarah. Dans Isaïe 58, verset 1, nous lisons « Crie à haute voix, ne te retiens pas, fais entendre ta voix comme une trompette. » Et donc, un prêtre ou un évêque qui cautionne des décisions injustes pour préserver son confort ou ses privilèges, il est loin d'être véritablement homme de Dieu, prophète et témoin. Il y a des communautés qui deviennent silencieuses face à l'injustice sociale. Les gens souffrent, les gens meurent de faim, la vie ne va pas. Des communautés silencieuses, il y a des églises incapables de parler. Et non, mais c'est une maladie. Saint Grégoire le Grand souligne clairement que le devoir du prêtre est de guider, pas de flatter le prince. Il est dit dans Dialogue, livre 2. Et Olivier Clément, c'est un théologien moderne, rappelait que l'Église est appelée à être prophétique, même si cela dérange, être prophétique. Heureusement qu'en RDC, nous avons une conférence des évêques qui dérange, qui parle, qui fait entendre sa voix quand il le faut. C'est cela la mission de l'Église. Nous constatons aussi le manque de vue de prière et de connaissances de la doctrine. Chers auditeurs, chers internautes, on ne peut aimer ce qu'on ne connaît pas, dit le cardinal Sarah. On ne peut aimer. Comment voulez-vous aimer ce que vous ne connaissez pas? Comment voulez-vous aimer une fille que vous ne connaissez pas? Comment voulez-vous avoir un ami que vous ne connaissez pas? C'est ainsi que dans Josué 1, 8, nous pouvons lire ceci. Méditez jour et nuit la loi du Seigneur et agir selon tout ce qui est écrit afin de réussir. Voilà. Nous trouvons des fidèles qui récitent les chapelets ou les credos par routine, sans engagement du cœur, sans foi, par routine. Il y en a même qui comptent le nombre de fois. Il reste 10 Ave Maria. Il reste ceci. Mais qu'est-ce que vous faites alors? Vous le faites par routine. Ou sinon la prière devient pour vous juste pour plaire aux gens. C'est tout. Des communautés chrétiennes où la lecture de la parole de Dieu est rare ou absente. Les cas des choristes, quand ils vont à la répétition, est-ce qu'ils méditent seulement un passage biblique? Rien du tout. Voilà pourquoi le pape François, dans Evangelii Gaudium, au numéro 262, dit « Une église qui ne prie pas devient une ONG des bons sentiments. » Et Saint Basile, père de l'église, lui dit que la prière est le souffle de l'âme. Sans elle, tout s'éteint. Le père Roger nous a rappelé ça hier dans sa catéchèse. Enfin, il y a le relativisme et la prière sans conviction. Le cardinal Sarah dit, nous décidons de nous passer de la lumière même de la foi. Or, dans le psaume 36, verset 10, nous disons, en ta lumière, nous voyons la lumière. Aujourd'hui, des prières récitées par habitude ou par pression sociale, sans cœur. Aujourd'hui, les jugements sur les autres ou des discussions pendant la messe allons-nous à la messe, à la prière ou quoi? Voilà pourquoi Thomas d'Aquin peut dire « La foi sans amour est morte et inutile ». Il est dit dans Somme théologique, chapitre 2, paragraphe 2, ligne 25. Et donc, l'Église est malade. Voilà la maladie spirituelle de l'Église. Que devons-nous faire? Quel remède? Mais le remède, c'est revenir à la source. Le remède à cette maladie, chers auditeurs, chers internautes, n'est pas dans les idées nouvelles, mais dans le retour à l'essentiel. Dans Apocalypse 2, verset 4, on nous dit « Souviens-toi de ton premier amour ». C'est le retour à quoi? À la prière personnelle, avec foi. La prière quotidienne, même brève mais sincère. Le retour à l'adoration eucharistique, vraie et sincère. Soyons des vrais adorateurs. Soyons les cœurs battants de la paroisse. La confession régulière pour purifier les cœurs. Écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, vivre cette parole, la prier, mais aussi la charité, l'attention aux pauvres. La charité concrète, voilà ce qui rend la foi crédible. N'oublions pas que l'Église est la maison de Dieu, une paroisse où l'on prie avant d'agir, où l'on adore avant de décider, mais devient une source de paix et de joie. Soyons donc cette Église en prière, qui est une Église vivante. Retournons à la source. N'oublions pas la tradition. N'oublions pas ce qui nous a été enseigné. Les soirs s'approchent et les jours baissent, chers fidèles auditeurs. Oui, le monde semble s'assombrir, mais le Christ n'abandonne pas son Église. Comme à Emmaüs, il marche encore à nos côtés, même si nos yeux sont fatigués. Et il nous redit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit? C'est là pour entrer dans sa gloire. Luc 24, verset 26. Chers auditeurs, chers internautes, soyons donc ces veilleurs du soir. Soyons ces chrétiens qui gardent la flamme vivante. Que notre foi ne soit pas tiède, mais brillante. Et que nos communautés ne soient pas des structures endormies, mais des cœurs en feu pour Dieu. L'Église n'a pas besoin d'être séduisante, retenons-le, mais elle doit être sainte. Et pour être sainte, elle doit retrouver son premier amour, Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Merci, Monsieur l'abbé Philibert Maïguélé. Nous allons, chers auditeurs, après cette petite pause, question de vous donner, de vous approcher de vos téléphones pour nous écrire, lancer la partie interactive de cette émission.
Aide-nous, Marie, à mieux prier. Puisqu'aimer peut changer notre histoire, aide-nous à nous réconcilier. Dans le ciel, nous avons une mère. Aime de nous à nous abandonner.
Voilà, merci beaucoup Virginie Sakala. Nous allons prendre la toute première question. Bonjour Monsieur l'Abbé et merci pour la catéchèse de ce jour. C'est vraiment un rappel à l'ordre au sein de notre propre église. C'est pacifique depuis la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation à Bougne. Nous constatons parfois sur les réseaux sociaux des vidéos montrant certains servants de messe en train d'exécuter des pas de danse combinés avec des gestes ou des danses qui sont en mode dans la musique congolaise. Alors, ma question est la suivante. Que fait l'église face à ces fléaux qui ne fait que prendre de l'ampleur? Qui est censé, deuxième question, qui est censé apporter des nouvelles danses à ces enfants ou qui leur apprend à danser et ces danses sont-elles contrôlées? Merci.
Merci beaucoup hein, à notre frère Pacifique pour ces questions. Vous savez, quand je parle de la mondanité, c'est tout cela. C'est ça la mondanité, malheureusement, qui est en train de ronger notre Église. Vos questions, ce sont les très très bonnes questions. Effectivement, dans plusieurs communautés, on constate que des enfants de cœur introduisent justement ces danses rythmées, gestuelles, spectaculaires ou mouvements non conformes à la liturgie. Parfois même inspirés de la culture populaire ou bien de la musique moderne. Vous l'avez dit, Pacifique. C'est peut-être une expression de joie, mais malheureusement qui devient un spectacle. Et nous constatons souvent que l'attention des fidèles est même détournée. Détournée de l'autel, détournée du Christ pour se porter sur ces véritables danseurs que nous avons devant nous. Alors le cardinal Sarah, c'est un ancien préfet du culte divin qui écrit ce livre. Il disait clairement que la liturgie n'est pas un lieu d'expression culturelle ou émotionnelle, mais c'est le lieu du mystère de Dieu. On ne doit pas oublier ça. Ce n'est pas nous qui créons la liturgie, mais c'est elle qui nous façonne. C'est la liturgie qui nous façonne. Donc même nos danses, tout ça, expression de joie ou quoi, ça doit être façonné par la liturgie. Voilà ce que dit l'ancien préfet du culte divin. Alors, que dit l'Église? Mais Pacifique, l'Église ne rejette pas la danse en soi, mais l'Église discerne avec prudence. Les documents du Vatican II les dit clairement. Hein? La lettre sur la danse dans la liturgie, la Congrégation pour le culte divin les dit. Si nous lisons cela, bon, je ne sais plus exactement ce qu'on dit, mais on parle là de la danse. Hein? La danse doit être conforme à ce qu'on célèbre. Ainsi, les gestes liturgiques, que ce soit pendant la procession, l'encensement, le mouvement d'autel, hein, tout cela doivent avoir cette valeur symbolique et sacrée. On ne doit pas improviser, on ne doit pas s'inspirer des réseaux sociaux, de la musique moderne, tout ça. Non, ça doit être vraiment façonné par la liturgie, comme je l'ai dit. Alors, qui doit encadrer ou autoriser ces danses? Mais la responsabilité revient d'abord au curé. Ça, c'est clair. Le curé est le garant de la liturgie dans sa paroisse. Il doit valider tout nouveau geste. Il doit suivre et même assister, n'est-ce pas, à ses enfants lorsqu'ils font les répétitions. À Kinshasa, Monseigneur Kisonga, de reste mémoire, les faisait. Il suivait tout ça. Hein, les Banankembi, les acolytes. Lui-même, parfois, il corrigeait leur façon de danser. C'est cela. Bon, aussi, dans un diocèse, l'évêque peut aussi suivre ça à travers la commission liturgique. L'évêque peut donner des orientations locales selon la culture et la sensibilité pastorale. Mais il y a aussi le responsable, les formateurs d'acolytes. Hein. Ils doivent enseigner aux enfants le respect du lieu sacré. comment danser, hein, les gestes qui doivent être symboliques, l'essence de la prière silencieuse, Adonaïm, pendant qu'on célèbre la messe, ils doivent apprendre à prier pendant qu'ils célèbrent, leurs gestes, tout ce qu'ils font là, hein, ça doit être une prière. Et donc, ce n'est pas aux enfants d'inventer eux-mêmes leur danse pendant la messe, mais ça doit être une initiative du formateur. Ils doivent être formés, encadrés, approuvés. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Bon, l'Église nous invite à éduquer, pas à condamner. Former ces jeunes, organiser des temps de danse, d'expression culturelle, c'est-à-dire les suivre, réintroduire la beauté du silence, mais aussi des gestes symboliques qui cadrent avec la liturgie. Et puis, bien sensibiliser, n'est-ce pas, les animateurs, tous ces responsables, les acolytes doivent être bien formés. Donc, il faut de l'équilibre, évidemment, l'équilibre entre la culture et la liturgie. Hein. Donc, si une danse exprime la révérence, la prière, la beauté du don de soi, ben, elle peut être envisagée. Mais tout cela, comme je disais, doit être suivi. Ces jeunes doivent être formés. Voilà ce que je peux répondre à notre ami Pacifique depuis Bounia.
Bonjour, Ado Maria. Bonjour à l'abbé, directeur. Nous vous suivons en direct l'Ado Maria avec le thème de la maladie qui ronge l'Église. C'est vraiment un thème bien choisi. Pourquoi? Parce que ça devait être vraiment une priorité pour tout chrétien de voir cette maladie-là qui ronge l'Église, parce que partout où nous sommes, nous les constatons. Nous les constatons. Tout ce que vous décelez là, c'est ce que nous constatons. Parce que les vraies conséquences de cette maladie, eh bien, c'est le manque de dévotion. Et puis c'est la déperdition des chrétiens. C'est comme ça que vous allez voir sur les 100% de notre paroisse du diocèse de Matagi. Vous allez remarquer que je crois nous perdons déjà une affaire de 60% des paroisses qui ne sont plus viables. Et c'est vraiment un manque à gagner quant à ça. Et maintenant, ma préoccupation, c'est que vous les pasteurs, l'abbé, qui encadrez ou qui dirigez l'Église dans différentes paroisses, ou d'une manière générale, quelles sont les précautions que vous prenez pour que, pour mettre fin à cette maladie qui ronge l'Église. Parce que déjà, en voyant cette réalité, il y a déjà un danger. Il y a déjà un danger pour les jours à venir. Nous les voyons, hein, nous les voyons dans les manifestations, dans des messes. Vous voyez que les gens ne sont pas vraiment concentrés. C'est comme un spectacle tel que vous venez de les signifier. Voilà, merci. Donc c'est ça vraiment ma préoccupation. Quelles sont les mesures que vous préconisez pour mettre fin à cette maladie qui ronge l'Église? Merci.
La question est de notre frère Jules Vince, Carme de la confrérie de Lucala.
Ah, merci beaucoup frère Gilles Vince pour vos questions. Et effectivement, il y a déperdition des chrétiens. Effectivement, il y a perte de dévotion. Ça, je crois qu'on doit se le dire. Les gens confondent la messe et les spectacles. Et les gens ne savent plus ce que veut dire venir à la messe. Alors, quelles sont les précautions? Les précautions, c'est que d'abord, il y a des directives, hein, il y a des orientations. Heureusement que chez nous, Monseigneur Giraud donne des orientations, hein, même pour la messe, comment il faut célébrer dignement la messe. Monseigneur Giraud comprend tout ça. Il donne des orientations claires. Et nous avons eu au diocèse de Matadi, il y a quelques années, nous avons eu un synode. Le synode a fait un diagnostic. Maintenant, quitte à nous d'appliquer toutes les résolutions du synode. C'est vraiment important. Les précautions, c'est que bon, il faudrait qu'au niveau des paroisses, que les curés organisent des sessions de prise de conscience, absolument, des sessions de prise de conscience pour que tous ensemble nous puissions prendre conscience de ça. Parce que quand on vient à l'église, on vient à l'église pour prier, on vient à l'église pour écouter la parole de Dieu, on vient à la paroisse justement pour contribuer à l'œuvre d'évangélisation. Et donc chaque chrétien doit connaître sa mission. Pourquoi il vient? Hein? Pourquoi il vient à la paroisse? Pourquoi il prie? Pourquoi il est catholique? Donc, parmi les précautions, il faut des sessions. Hein? En tout cas, dans beaucoup de paroisses, on organise des sessions. Au niveau mondial, quand le pape François a invité l'Église dans une démarche de la synodalité, c'est un peu cela, cette prise de conscience. Nous devons retourner à la source, comme je l'ai dit. Nous devons retourner à notre premier amour, redécouvrir l'évangile, la place de l'évangile dans notre vie. C'est cela. Donc il faut des précautions dans ce sens-là. En tout cas, il y a des orientations pastorales de l'évêque, quitte à chaque curé, de bien lire ces orientations, de les appliquer. Nous avons des résolutions du synode, quitte à chaque curé, de lire et de les appliquer, mais aussi organiser des sessions. Hein, organiser, pourquoi pas, des temps de réflexion intense pour voir comment réveiller un peu la dévotion des fidèles, comment rendre nos paroisses dynamiques. Et cela, c'est vraiment important. Voilà ce que je peux dire à notre frère à travers vous. Je salue tous les carmes, tous les carmes du doyenné de Kimpese. Je salue les confrères prêtres et merci surtout d'avoir choisi Radio Maria.
Merci beaucoup. Bonjour, monsieur l'abbé directeur Philibert. Bonjour, Daniel. Merci, monsieur l'abbé, pour cette belle catéchèse que nous sommes en train de suivre depuis notre poste de travail à Kazangoulou. Voilà, c'est pas une question, ce n'est que c'est de la part de monsieur John Lang, président de Carme Sainte-Marie Souyo. Bonjour, monsieur l'abbé Philibert. Et merci pour cette belle catéchèse. Monsieur l'abbé, je voudrais dire que dans le mal qui ronge l'Église, vous n'avez pas tort de citer vos propres confrères ainsi que d'autres autorités de l'Église. Nous sommes tous dedans, laïcs, prêtres, évêques, tous. Je voudrais, quant à ceux demander un conseil, je ne donne pas de détails par respect à mes pasteurs. Mais lorsque je fais d'un prêtre ami de ma famille et que ce prêtre finalement en profite pour causer des abus sur le membre de ma famille, sur ma fille, qui n'a que 16 ans jusque-là. Et je me suis rendu compte que l'affaire était déjà très avancée. Devant cette réalité, qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que je me suis comporté d'une façon que certains amis m'ont reproché, alors que c'était plus que ma patience et l'affaire m'a dépassé. Je ne voudrais pas donner de détails, je préfère me limiter là. Je suis un de vos chrétiens à Kinshasa, mais il n'a pas signé, il dit, il s'appelle et à la fin il dit par respect, voilà.
Merci beaucoup à notre frère pour votre question. Et bon, ça va un peu, bon, je dirais, c'est un peu en dehors de ce que j'étais en train de décrire là. Je suis vraiment désolé d'apprendre cela, parce que ce que vous décrivez là est grave, parce qu'il ne s'agit pas d'un simple conflit ou d'un écart de conduite, mais il s'agit d'un abus sexuel. Et cela est commis par une personne consacrée. Mais ça fait mal. Alors, puisque vous me demandez des conseils, vraiment je vais me limiter aux conseils essentiels que je peux vous donner. Avec prudence et compassion, le premier conseil, il faut commencer par protéger votre fille immédiatement. Assurez-vous qu'elle est en sécurité et que le prêtre n'ait plus aucun accès à elle. Deuxième petit conseil, toujours dans le cadre de la protection, si elle a besoin des soins médicaux ou psychologiques, ben faites-la accompagner. Faut pas qu'elle aille seule à l'hôpital, au centre médical, etc. etc. Dites-vous que ben, ce n'est peut-être pas de sa faute, puisque c'est une petite fille, elle est encore mineure. Les victimes se sentent souvent coupables, alors qu'elles ont subi parfois une pression, tout ça, tout ça. Il ne faut pas donner l'impression à votre fille qu'elle est coupable, mais il faut l'approcher avec amour, avec compassion, et puis vous le conseiller. Bon, si cela vraiment vous dérange, ce n'est pas à vous d'agir, mais il y a la hiérarchie. Hein, signaler les faits peut-être aux autorités compétentes. Même si il s'agit d'un prêtre, n'oubliez pas que l'Église est bien organisée. Traiter ça en Église, ou laisser à l'Église les soins, n'est-ce pas, de suivre ça. À l'Église, en tout cas, de vous orienter. Nous avons dans l'Église un vicaire judiciaire qui peut suivre ces problèmes, qui peut vous orienter et voir comment cette affaire peut être traitée. N'oublions pas aussi la prière. Il faut prier. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Priez pour ces prêtres. Priez pour votre fille. Priez pour l'Église. Le pape François l'a fait, il a prié pour l'Église. Le pape François a demandé pardon pour tous ces abus commis par des prêtres. On ne doit pas oublier cela. Et donc, lorsque vous avez informé la hiérarchie, vous avez informé l'Église, vous avez prié, bon, demandez au Seigneur peut-être l'essence du pardon. Mais attention, attention, hein, quand vous faites tout cela, il ne faut pas développer, je dirais, une haine vis-à-vis de ce prêtre. Peut-être l'approcher, parler avec lui, avec politesse, échanger avec lui, et puis, comment je peux dire, parler des vrais problèmes. Pour que le prêtre sente sa responsabilité dans cette histoire et qu'il puisse amender. Voilà, qu'il puisse amender. En tout cas, trouver des stratégies pour que cela s'arrête, pour que cela ne continue pas. Voilà. Donc, c'est autant de choses, ça fait de la peine, mais qu'est-ce que vous voulez? On est enfant de Dieu, on est dans l'Église, nous devons toujours être habités par l'esprit du pardon, mais aussi par la prière. Comme les saints pères, le pape François nous a donné l'exemple. Voilà ce que je peux dire à notre frère. En tout cas, je vous encourage et je promets de prier pour vous, de prier pour votre fille et de prier pour mon confrère prêtre. Merci.
Merci.
Bonjour mon frère Daniel, bonjour monsieur l'abbé Philbert, et merci beaucoup pour cette très belle catéchèse. Hein. Je suis un peu tiqué hein, par ce livre écrit par le cardinal Sarah. Et je me pose la question, est-ce que finalement le cardinal Sarah ne remet pas en cause ou ne remet pas en question l'infaillibilité de l'Église? Et s'il ne remet pas finalement en cause ou en question la conclusion du credo qui stipule « Je crois à l'Église une sainte ». Je vous épargne des vocables catholiques et apostoliques. Alors, est-ce que lorsqu'il dit que l'Église est malade, il ne remet pas en cause la conclusion du credo « Je crois à l'Église une et sainte ». Donc l'Église n'est plus sainte. Alors, j'enchaîne en disant ceci. Mais l'heure est grave alors. Parce que lorsqu'il dit cela, lui en tant que cardinal, on peut s'exclamer que l'heure est grave. Lorsque le cardinal Sarah diagnostique le dysfonctionnement de l'Église, je me pose la question à savoir si depuis des millénaires, l'Église est une... Église épanouie. Est-ce que vraiment nous sommes dans une église épanouie ou plutôt dans un tombeau blanchi dénoncé par Jésus face à l'hypocrisie des pharisiens et des scribes qui fait que depuis des millénaires alors l'église soigne ses apparences extérieures pour masquer une sorte de corruption intérieure. Et donc, on doit conclure que dans le placard de l'Église se cachent des fidèles corrompus alors. Merci beaucoup, M. Labbé. D'abord, je m'arrête là.
Merci à Joseph de Marie pour votre observation d'abord et puis pour toutes vos questions. Mais bon, ici, je voudrais recadrer. Non, le cardinal Sarah ne conteste pas la foi de l'Église. Encore moins les credos. Au contraire, le cardinal, dans son livre, il veut réveiller les consciences. Le cardinal nous invite à redécouvrir ce que nous proclamons. Le cardinal dénonce la maladie qui ronge l'Église. Il ne parle pas du corps mystique du Christ, qui est saint, vous l'avez dit. Mais il parle des membres pécheurs. Il ne faut pas oublier, Joseph de Marie, que l'Église est sainte, mais qui est constituée des membres qui sont des pécheurs, des hommes et des femmes qui sont pécheurs dans ces corps. Comme toi et moi. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des pécheurs. Donc, le cardinal Sarah, d'ailleurs, dans ces livres-là, il dit bien que l'Église est sainte parce que son Seigneur est saint. Mais l'Église est blessée parce que nous, ses enfants, nous, ses membres, nous sommes des pécheurs. Vous voyez, quelque part dans son livre, il dit ça. Donc, autrement dit, la sainteté de l'Église, mon cher Joseph de Marie, ne vient pas de nous, mais elle vient de Jésus-Christ. C'est lui qui a voulu l'Église. C'est lui qui a dit à Pierre, qui est Pierre, sur cette pierre, moi, je bâtirai mon Église. L'Église appartient au Christ. C'est lui qui a voulu l'Église, c'est lui qui a bâti l'Église. Et la sainteté de l'Église vient du fait que sa tête, qui est le Christ, est sainte. Et donc, c'est Dieu lui-même qui accorde à cette Église cette nature de sainteté. Ce n'est pas nous. Mais Dieu a confié son Église à des humains que nous sommes, à des pécheurs que nous sommes, à des hommes fragiles, souvent même infidèles. Et même les apôtres que Jésus a appelés, nous les savons, c'était des hommes fragiles. Lui-même, Pierre, à qui Jésus a laissé l'Église, il a renié combien de fois? Judas Iscariote était parmi les apôtres. Il a même trahi le maître. Il a vendu le maître. C'est cela, l'Église. Donc, quand on dit « je crois en l'Église, une sainte, catholique, et apostolique, eh bien, quand nous disons cela dans les credos, ce n'est pas que l'Église devient, c'est pas moi, une simple institution humaine. Non. Nous professions notre foi en l'action du Saint-Esprit qui est dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de découvrir cela. Et voilà pourquoi Saint Paul, dans Éphésiens, il disait que le Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré pour elle. C'est ça. C'est ça l'Église. L'Église est donc une, sainte, catholique et apostolique. C'est avec raison que nous allons continuer à professer cela et l'Église insiste là-dessus. Mais n'oublions pas que l'Église reste un mystère de sainteté. Mais aussi, par ailleurs, reste une institution constituée des membres, des hommes et des femmes qui sont des pécheurs. On ne doit pas oublier cela. Donc, il ne s'agit pas de l'infaillibilité de l'Église. D'ailleurs, on ne parle même pas de l'infaillibilité de l'Église, mais plutôt de l'infaillibilité du pape. Et donc là, quand vous dites l'infaillibilité de l'Église, bon, ce n'est pas tout à fait correct par rapport à la doctrine de l'Église. Oui, l'heure est grave. Oui, mais pas désespéré. Parce que le cardinal l'a souligné, et je crois que je l'ai dit à la conclusion, même si l'Église est malade, mais le Christ est avec nous. Le Christ nous accompagne, comme il a accompagné les disciples d'Emmaüs. Il est avec nous. Voilà pourquoi le cardinal Sarah parle même du temps que nous vivons aujourd'hui. Il compare ça à une nuit spirituelle. Voilà pourquoi il dit le soir s'approche. C'est une nuit spirituelle. Mais il ajoute que l'Église, le Christ est toujours là. Il ne nous abandonne pas. Il est vivant. Il est vivant. Il est avec nous. Même quand on s'enfonce, il est là. Il vient pour nous sauver. Et donc, je peux dire, l'heure est grave. L'heure est grave parce que beaucoup de chrétiens vivent comme si Dieu n'existait pas. Je l'ai dit. L'heure est grave parce que certains pasteurs, prêtres, évêques, manquent même l'esprit de prière, de courage, de pureté. Ouais, y en a qui ont peur de dénoncer la vérité, même quand ça ne va pas. Hein? Il y a la mondanité qui pénètre de plus en plus l'Église dans notre comportement. Et la liturgie même, elle est parfois profanée par les spectacles et la légèreté. Voilà ce que le cardinal dénonce. Hein? Et il attire notre conscience par rapport à cela. Et la vérité, même la vérité doctrinale, est relativisée. Hein? Voyons comment on critique la doctrine de l'Église. Voyons comment on parle de la Vierge Marie avec légèreté. Et il y a beaucoup de chrétiens catholiques, malheureusement, qui appuient cela. Mais ce n'est pas une raison de désespérer. Voilà pourquoi le cardinal Sarah parle d'un appel à la conversion. Bon, vous parlez de l'Église qui est un tombeau blanchi. Non, l'Église n'est pas un tombeau blanchi. Jésus reprochait aux pharisiens d'être des tombeaux blanchis. Je crois que c'est dans Matthieu qu'il en parle. Hein? Beau de l'extérieur, mais corrompu de l'intérieur. Il ne s'agit pas de l'Église, corps mystique, mais il parle aux membres, nous. C'est nous qui sommes comme des tombeaux blanchis. Hein? Voilà pourquoi j'ai parlé de... Hein? Vous avez l'air d'être pieux, hein? De la piété, mais en réalité... ce n'est pas cela. Vous êtes loin de cette vérité que vous confessez. Donc il s'agit de certaines attitudes des chrétiens, certains comportements des chrétiens que le cardinal essaye de dénoncer. Il s'agit donc d'une belle façade, mais il y a manque de sainteté intérieure. On va à l'église, on est physiquement présent à l'église, mais spirituellement on n'est pas là. Au lieu de prier, on ne prie pas. Au lieu de prier, on regarde des gens, des modèles, tout ça, les habits. Hein? Au lieu de prier, on critique. Au lieu de prier, on est sur son téléphone. Voilà. Donc c'est cela que le cardinal dénonce et il attire notre attention. Mais il y a manque de sainteté intérieure. On va à l'église. Hein? On est physiquement présent à l'église, mais spirituellement, on n'est pas là. Au lieu de prier, on ne prie pas. Hein? Au lieu de prier, on regarde des gens, des modèles, tout ça, les habits. Hein, au lieu de prier, on critique. Au lieu de prier, on est sur son téléphone. Voilà. Donc c'est cela que le cardinal dénonce et il attire notre attention. Mais l'Église n'est pas un tombeau blanchi, non. Ce n'est pas un cadavre maquillé, non. L'Église reste le corps vivant du Christ. Mais l'Église est blessée. Voilà pourquoi dans l'Église, le Christ est là. Nous avons le tabernacle qui est là. Nous avons l'autel qui est là. L'église, c'est un lieu sacré. C'est la maison de Dieu. Quand nous entrons dans l'église, nous entrons dans la maison de Dieu. Et donc, nous devons avoir cette attitude comme si on était en face de Dieu. Donc, ce sont les fidèles plutôt qui sont corrompus. Ce sont des fidèles qui donnent l'impression d'être saints, mais en réalité, non. Hein? Mais Dieu, dans son amour infini, il purifie l'Église, il nous purifie, hein? Il nous purifie, il n'abandonne pas son Église. Voilà ce que le cardinal Sarah dénonce, mais il nous invite à la conversion. C'est ça la voie à suivre, nous convertir. Nous devons revenir au premier amour, nous devons revenir au Christ, à la prière, à la confession, à la vérité du cœur. Voilà ce que je peux dire à Joseph de Marie, à qui j'ai dit merci pour toutes ces questions.
Merci, monsieur l'abbé, fidèles auditeurs. C'est donc la fin de cette émission. La catéchèse nationale qui a porté sur un thème très important, un thème qui nous a amené à pouvoir nous dire, à pouvoir parler de notre propre maison, l'Église. Et monsieur l'abbé a choisi de l'intituler les mal ou la maladie qui ronge l'Église. Et ceci nous a permis à pouvoir nous regarder en face et nous dire certaines choses dans une ambiance vraiment des chrétiens, dans une ambiance de vérité. Merci donc à M. l'abbé Philibert de nous avoir offert cet enseignement. Et merci à vous de votre fidélité. Merci d'avoir suivi et surtout d'être intervenu. Et nous allons revenir à M. l'abbé pour la prière de clôture.
Merci Daniel, merci à tous nos auditeurs. Oui, le monde semble sombre, mais le Christ marche toujours à nos côtés. Comme à Emmaüs, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Chers auditeurs, chers internautes, soyons veilleurs du soir. Soyons des chrétiens brillants d'amour et non des chrétiens tièdes. Ne jugeons pas avec dureté, mais aimons avec discernement. Car l'Église n'a pas besoin, je l'avais dit, d'être séduisante, mais l'Église est appelée à être sainte, fidèle à son premier amour, qui est Jésus-Christ. Que chacun se donne des principes, pas des smartphones pendant la messe, pas de critiques ni bavardages, pas de tours de marche inutiles à la messe, parce que nous participons, soyons attentifs à la prière, participons activement, chantons avec la chorale, battons les mains, quand il faut se lever, il faut se lever, quand il faut s'asseoir, il faut s'asseoir, et apprenons à adorer sincèrement. Voilà ce que le cardinal nous invite à afficher comme attitude lorsque nous sommes à la messe. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci de tout cœur pour cette catéchèse. Merci de nous avoir rappelé que chaque fois que nous sommes à la messe, nous participons au sacrifice du Christ. Seigneur, guéris ton Église de la maladie de l'indifférence, du matérialisme, du relativisme et de la tiédeur. Rends nos cœurs brillants d'amour pour toi et apprends-nous à prier avec conviction, à méditer ta parole, à célébrer la messe avec cœur. Seigneur, fais de nous des témoins lumineux dans ce monde obscur. Et que nos vies soient signes de ton royaume et non d'une simple apparence. Seigneur, reste avec nous car les soirs approchent et les jours baissent. Que ton nom soit béni, toi qui es notre Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Amen. Merci, monsieur l'abbé, et merci à vous, fidèles auditeurs. Restez branché, fidèle au programme de Radio Maria. Au revoir. Thank you.